fameuse galerie des héros de la foi que nous trouvons dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, Moïse occupe la deuxième place par le nombre de versets qui parlent de lui, 6 versets derrière Abraham qui en totalise 8. Oui, Moïse occupe une place toute particulière dans l'histoire d'Israël. C'est lui que Dieu a choisi pour libérer son peuple, les Hébreux, de l'esclavage en Égypte. Ils ne sont pas encore tout à fait son peuple à ce moment-là, mais pour en faire son peuple. C'est lui que Dieu a choisi pour guider le peuple dans le désert vers le pays promis. C'est lui que Dieu a choisi pour organiser la vie cultuelle, la vie civile du peuple après avoir reçu la loi au mont Sinaï. Moïse occupe une place toute particulière dans l'histoire du peuple de l'Ancienne Alliance, et c'est dans le récit du livre de l'Exode que nous allons suivre ses pérégrinations aujourd'hui et tout au long de cette série. Le livre de l'Exode commence là où s'est arrêté celui de la Genèse, c'est-à-dire avec la mort de Joseph. Joseph que Dieu avait choisi pour sauver sa famille de la famine en les faisant venir en Égypte. Joseph dont Dieu va se servir pour bénir sa famille, mais aussi pour bénir l'Égypte. Mais voilà, maintenant Joseph est mort. D'ailleurs, il est même mort depuis belle lurette, puisqu'il s'est écoulé environ 300 ans entre la fin du livre de la Genèse et celui de l'Exode. Joseph est mort, ses frères aussi, et toute la génération qu'il a connue. Joseph est mort et son souvenir a disparu. Joseph est mort et le nouveau roi d'Égypte ne connaît pas, n'a jamais entendu parler de lui. Non, le Pharaon ne sait rien de Joseph. Il ne sait rien du bien que Joseph a fait à son peuple. Il ne sait rien, à l'évidence, de ces Hébreux qu'il considère aujourd'hui comme une menace pour son peuple. Il ne sait rien ou pas grand-chose. Et cette ignorance va conduire le nouveau roi d'Égypte à prendre des décisions drastiques. Je vous invite à lire maintenant le passage que nous allons méditer ce matin. Il est assez conséquent. Nous allons lire les versets 1 du chapitre 1er jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chacun était venu avec toute sa maison, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds. Ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple : Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le Pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. Travail de l'argile et des briques et de toutes sortes de travaux des champs, tels étaient les travaux de rude esclavage qu'on leur imposait. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une se nommait Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Pourquoi avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Comme elles sont pleines de vie, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devint très fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur donna une famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Tous les garçons qui naîtront, vous les jeterez dans le Nil, toutes les filles, vous les laisserez vivre. » Un homme de la famille de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit se baigner dans le Nil, tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des joncs et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle voulait l'épargner, mais elle dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. » La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et celui-ci le prit pour fils. Celle-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, tiré, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Que le nouveau Pharaon n'ait pas connu Joseph, qui ne l'ait pas connu personnellement, n'est pas le fond du problème. Il aurait pu en entendre parler. Il aurait pu chercher à savoir qui il était, fouiller dans les archives royales et découvrir ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Ce qui est vraiment problématique, c'est que le regard des Égyptiens sur les Israélites a changé. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont multipliés, dit le texte. Ils apparaissent maintenant comme une menace. Ils inspirent de la crainte et de la peur aux Égyptiens. Et comme souvent, la peur engendre la brutalité. Oui, le peuple s'est multiplié. Ceux issus de Jacob étaient 70 en tout, dit le texte, à leur arrivée en Égypte. En réalité, ce chiffre de 70 ne correspond qu'aux hommes. On estime que toute la famille de Jacob, au moment de leur venue en Égypte, femmes et enfants compris, devait être plutôt autour des 140. 140 personnes à l'arrivée, mais près de 2 millions au moment de la sortie de l'Égypte. Le livre des Nombres, chapitre 1, verset 46, nous donne le nombre de 603 550 hommes aptes à porter les armes au moment de l'Exode, ce qui donne, avec un ratio de 1 pour 4 environ, femmes et enfants compris, pas loin de 2 millions de personnes au moment de la sortie de l'Égypte. Un chiffre qui est parfois, même souvent, contesté. En réalité, cette multiplication des Hébreux correspond approximativement au doublement de la population 14 fois de suite. 14 fois de suite pendant les 400 ans qu'a duré le séjour de ces Hébreux en Égypte est tout à fait plausible si on compte le renouvellement des générations tous les 25 ans environ, et si on se souvient que Dieu lui-même présidait à la multiplication de ce peuple en accomplissant ainsi la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Oui, le peuple s'est grandement multiplié. Notons qu'il reste plus de 80 ans au moment de notre récit jusqu'au moment de l'Exode. Ça va encore doubler trois fois, selon nos calculs. Donc, ils ne sont pas encore 2 millions à ce moment-là. Mais ils sont, à l'évidence, déjà suffisamment nombreux pour inspirer de la crainte aux Égyptiens. Je relis les versets 8 et 10. « Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. » Et c'est ainsi que Pharaon va mettre en place un plan pour contrôler la situation. Un plan pour affaiblir ceux qu'il considère comme une menace. Un plan pour renverser la vapeur, pour reprendre les cartes en main. Un plan pour enrayer la multiplication des Hébreux. Et c'est ainsi que les Hébreux se retrouvent forcés de travailler, affligés par des corvées. C'est ainsi, dit le texte, que les villes entrepôts de Pithom et Ramsès sont construites. Pharaon devait certainement penser que ces mesures drastiques allaient changer la situation, inverser la courbe de croissance. Mais il n'en est rien. Malgré le dur labeur auquel le peuple est soumis, il continue de croître. Verset 12, « Plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. » Quel paradoxe ! Plus on les affligeait et plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Le plan A est un échec. Et en plus, à la crainte et à la peur s'ajoutent maintenant le dégoût et la haine des Égyptiens envers ce peuple qui continue de se multiplier. On prit les Israélites en horreur, dit le texte. Pour Pharaon, l'échec du plan A le conduit à mettre en place un plan B. C'est ainsi que les corvées se transforment en esclavage, en rude esclavage, dit le texte. Travail de l'argile et des briques, travail des champs, la vie des Hébreux est rendue amère. C'est maintenant un peuple esclave, c'est maintenant un peuple qui souffre. Sans doute que beaucoup de choses se sont faites au début progressivement et insidieusement, sur une période de temps dont le texte ne parle pas, progressivement et insidieusement, sans que les Israélites ne voient vraiment venir la chose. Et une fois qu'ils ont vu la chose, il était trop tard pour réagir, du moins avec efficacité. Notons que les choses se sont souvent passées ainsi dans l'histoire des hommes. Et on se souvient, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, comment les choses se sont passées au moment de la Deuxième Guerre mondiale, comment les choses se sont mises en place progressivement et insidieusement, comment on est passé de l'étoile jaune que l'on cousait sur le vêtement des Juifs à l'extermination de masse en passant par la ghettoïsation, le travail forcé, j'en passe. En parallèle à ce durcissement des conditions de vie des Hébreux, Pharaon décide de porter le coup de grâce, celui dont les Hébreux ne se relèveront pas. Et c'est ainsi qu'il convoque deux sages-femmes des Hébreux, Shifra et Pua, sans doute les responsables de la confrérie ou des sages-femmes des Hébreux. Pharaon les convoque et leur donne l'ordre de tuer les bébés mâles au moment de l'accouchement. Verset 16, il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les choses ne se passent pas comme Pharaon l'avait prévu. Le texte continue au verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu. » On a déjà entendu quelques mots sur la crainte de Dieu ce matin. « Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Shifra et Pua craignaient Dieu. C'est la raison pour laquelle elles ont désobéi. Elles ont désobéi et elles ont laissé vivre les garçons hébreux qui naissaient. » À l'instar des apôtres dans le livre des Actes, elles ont choisi à ce moment-là d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un choix que le chrétien doit parfois faire quand le pouvoir en place exige de ses citoyens, parfois même des chrétiens dans certaines situations, qu'ils fassent ce qui est mal. Il faut alors obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce que Shifra et Pua ont fait. C'est donc l'échec du plan B. Nous lisons au verset 20, « Le peuple se multiplia et devint très fort. » C'est l'échec du plan B qui finit par parvenir aux oreilles de Pharaon, qui convoque à nouveau les sages-femmes pour leur demander des comptes. Et l'explication qu'elle donne au verset 19, il faut bien le reconnaître, en tout cas à mes yeux, est cousue de fil blanc. Mais Dieu honore la foi de ces femmes et la crainte de Dieu dans leur cœur. Pharaon ne les inquiète pas. Et Dieu bénit Shifra et Pua en leur donnant une famille, dit le texte. C'était sans doute là le désir de leur cœur. Le plan B a échoué. Mais Pharaon n'a pas dit son dernier mot. Il a encore une carte maîtresse à jouer. Il ne s'avoue pas vaincu. Il est temps d'enclencher le plan C. Verset 22, « Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. » Tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil, toutes les filles, vous les laisserez vivre. Cette fois-ci, c'est tout le peuple qui est mis à contribution, pas seulement les sages-femmes. Mis à contribution pour participer à une extermination de masse des garçons hébreux qui naîtront en les jetant aux pâtures, aux crocodiles. Pharaon change d'échelle. Il passe à la vitesse supérieure. Il maximise ses chances de réussir en multipliant les acteurs du plan C. Et on peut assez facilement imaginer le climat délétère qui devait régner à ce moment-là en Égypte. L'heure était à la suspicion et aux dénonciations en tout genre. Décidément, il ne faisait pas bon vivre en Égypte à cette période de l'histoire des descendants de Jacob et de Joseph. Voilà le cadre, le contexte brossé à grands traits dans lequel Moïse va venir au monde. Le décor est planté, il est temps de passer à l'acte 2. Le chapitre 2 commence en parlant des parents de Moïse. Ils ne sont pas nommés à ce moment-là, ils le seront au chapitre 6. Le père s'appelle Amram et la mère s'appelle Jochébed. Ils sont tous les deux, dit le texte, de la tribu de Lévi, ça aura son importance pour Moïse plus tard, et ils deviennent parents d'un beau garçon, dit le texte. Pas tous les bébés sont beaux, mais c'était un beau garçon, dit le texte. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, va souligner la foi des parents de Moïse. qui vont décider de cacher leur fils. C'est par la foi, dit le texte, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Oui, dans le contexte que nous avons esquissé, pour que l'enfant vive, il fallait le cacher. Il fallait s'arranger pour que les pleurs et les cris de l'enfant ne soient pas entendus par les Égyptiens. Il fallait sans doute user de toutes sortes de stratagèmes pour camoufler, couvrir le bruit, les bruits que pourrait faire l'enfant. Et il fallait pour cela que toute la famille y participe, que toute la famille s'organise. Et c'est ce que la famille de Amram et Jochébed ont réussi à faire pendant 3 mois. Mais l'enfant a grandi. L'enfant a grandi et très certainement que ses cris et ses pleurs ont pris du volume, sont naturellement devenus de plus en plus forts. Et les ruses que Amram et Jochébed ont développées jusque-là commencent à montrer leurs limites, très certainement. Tôt ou tard, un Égyptien finira par entendre quelque chose, finira par se douter qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Il est urgent de trouver une autre solution. Et c'est ainsi que la décision surprenante est prise de construire une caisse étanche de papyrus, en papyrus, et de cacher l'enfant à l'intérieur, puis de le mettre sur le Nil, parmi les roseaux. La sœur aînée, qui n'est pas encore nommée, mais nous savons que c'est Myriam, est à ce stade-là chargée de surveiller ce navire improvisé, cette embarcation de fortune, en se cachant à proximité des joncs où est déposé le bébé. Qu'espéraient les parents de Moïse en agissant ainsi? Cherchait-il simplement à cacher l'enfant? Ou bien avait-il imaginé comme possible la suite des événements? Il est bien évidemment impossible de l'affirmer, mais il semblerait que l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Nous lisons au verset 4 que Myriam devait se poster à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. On attendait quelque chose. On espérait quelque chose. Et la suite, nous la connaissons bien. Une des filles de Pharaon, qui devait très certainement avoir l'habitude de se baigner à cet endroit-là, décida de prendre son bain dans le Nil ce jour-là. Peut-être qu'elle le faisait tous les jours. Et alors qu'elle se baignait, elle voit la caisse parmi les roseaux. Et très certainement qu'elle entend l'enfant pleurer, parce qu'au moment où la servante est allée chercher le petit radeau et qu'il l'ouvre, l'enfant pleure, dit le texte. La princesse est attendrie, on l'aurait sans doute tous été. L'enfant est beau, ce qui ne gâche rien. Mais la fille de Pharaon voit tout de suite les difficultés. Elle voit tout de suite que c'est un enfant des Hébreux. Elle veut l'épargner néanmoins, mais elle est consciente à ce moment-là, sans doute, des difficultés de l'affaire. Comment le contact s'est opéré entre Myriam et la fille de Pharaon, le texte n'en dit rien. Il se contente de souligner l'audace de la sœur de Moïse, qui s'adresse à la fille de Pharaon. « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ? » Avait-il déjà imaginé le scénario ?« Va, lui dit la princesse. La nourrice sera Jochébed, la mère. Elle sera même payée pour allaiter son propre fils. » Plus tard, sans doute plusieurs années plus tard, l'enfant a grandi, il est maintenant sevré, Il y a très certainement eu des contacts hein, entre l'enfant, la mère, la fille pendant toutes ces années, mais arrive un moment où l'enfant est définitivement amené à la fille de Pharaon pour y rester. Elle l'adopte, elle en fait son fils, et elle lui donne le nom de Moïse, qui signifie « tirer », parce que, dit-elle, « je l'ai retiré de l'eau ». Je me suis volontairement abstenu de tirer des leçons au fur et à mesure du développement des circonstances pour le faire à la fin de ce message. Et j'aimerais souligner deux leçons qui s'imposent à moi, qui se sont imposées à moi après tout ce que nous venons de dire. Il y aurait bien évidemment d'autres choses à dire, mais je me contenterai de ces deux-là. La première leçon concerne, j'allais dire bien évidemment, la souveraineté de Dieu et sa providence. Dieu est le maître de l'histoire des hommes. Nous croyons avec la Bible que Dieu est souverain. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises ce matin. Nous croyons qu'il tient toutes choses dans sa main. Toutes choses, c'est-à-dire pas seulement ma vie, pas seulement la vie de son peuple, mais aussi ce monde déchu, mais aussi les nations et leurs rois. Toutes choses. Parler de la souveraineté de Dieu, c'est aussi parler de sa providence. Et peut-être vous souvenez-vous, lors de la série sur Joseph, des deux définitions que j'avais données à ce moment-là de la souveraineté de Dieu et de sa providence. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu est au-dessus de tout et que tout lui est soumis. Voilà un résumé de ce qu'est la souveraineté de Dieu. La providence divine, c'est le fait que le hasard n'existe pas, ni dans ce monde, ni dans notre vie, parce que Dieu est souverain et qu'il dirige toutes choses pour la réalisation de son plan. Comment se manifeste la souveraineté de Dieu et sa providence dans notre texte ? Elle se manifeste principalement dans les circonstances que Dieu permet, que Dieu prépare, que Dieu conduit. Pas seulement les circonstances de vie de Amram et Jochébed, pas seulement les circonstances de vie du peuple hébreu, mais aussi les circonstances de vie des Égyptiens, et même de Pharaon, et même de sa fille. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ce n'est pas un hasard, par exemple, mais la providence divine, si la fille de Pharaon s'est baignée ce jour-là, à cet endroit-là, et si elle a vu et entendu le bébé qui pleurait dans cette caisse au milieu des joncs. Dans quel but Dieu exerce-t-il sa souveraineté et sa providence ? Dans celui de la réalisation de ses plans, de son plan, de ses desseins, de sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu dans notre récit ? Pour la petite part que nous en savons, c'est d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob, promesses de multiplication de leur descendance, promesses de délivrance, mais c'est aussi celle de préparer le salut de son peuple. Et puis, à un peu plus long terme, de préparer le salut de tous ceux qui croiront en Jésus, son Fils. La réalisation de la volonté de Dieu devait passer à ce moment-là, dans l'histoire des Hébreux, par des moments difficiles, même tragiques. Dieu a permis que ce peuple devienne esclave, et qu'il soit maltraité. Et on n'imagine certainement pas le commencement du quart, de la moitié de ce qu'ils ont dû endurer. Dieu a permis que les Égyptiens mettent à mort un certain nombre d'enfants, de garçons, nés parmi le peuple hébreu. Mais ces chemins difficiles et même incompréhensibles pour une part, étaient néanmoins dans la main de Dieu. Dieu en connaissait tous les tenants et tous les aboutissants, et Dieu les dirigeait pour accomplir sa volonté. Nous devons nous souvenir ici que Dieu doit composer avec un monde déchu pour réaliser sa volonté. Un monde qui est profondément marqué par le péché et par toutes ses conséquences néfastes. Et c'est ainsi que certains des chemins qu'il trace pour les siens sont empreints de ces conséquences, sont empreints de souffrance, d'injustice et de malheur. Les cieux et la terre où ce qui est juste habitera est encore à venir. Rappelons aussi que dire que Dieu est souverain ne veut pas dire qu'il cautionne le mal commis par le méchant et dont celui-ci sera toujours responsable devant Dieu. Y avait-il d'autres chemins possibles pour les Hébreux ? Seul Dieu le sait. Ce que nous savons, et c'est notre part, c'est qu'il a conduit les choses ainsi, il a permis que les choses se passent ainsi. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de moi, de vous, de ma vie, de votre vie, de mes difficultés, de vos difficultés ? Sont-elles sous le regard de Dieu ? Échappe-t-elle au contrôle de sa volonté ? Que Dieu soit souverain sur la vie et les circonstances du peuple hébreu, ça nous va très bien. C'est une chose, c'est la Bible. Voilà, Dieu est souverain. Mais qu'il soit souverain sur ma vie, sur mes chemins difficiles, c'est autre chose. Et c'est peut-être parfois plus difficile à accepter pour nous. Pourtant, soit Dieu est toujours souverain, soit il ne l'est jamais. Il n'y a pas de chemin entre les deux. Je ne peux pas penser que Dieu est souverain quand ça m'arrange. Hein, il a conduit telle bénédiction, c'est super, gloire à Dieu. Et puis quand c'est plus difficile... Il y serait pour rien, il peut rien. Je ne peux pas penser que Dieu est souverain quand ça m'arrange et que les choses lui échappent quand elles me bousculent. C'est conceptuellement pas possible d'imaginer ça. Dieu fait toujours, dit sa parole, concourir toutes choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises dans ce monde déchu. Toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, dit le texte de Romains 8, et qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. La réalité, c'est que Dieu est toujours souverain, que j'en sois conscient ou pas, que je le comprenne ou pas, que je le vois ou pas, que je l'accepte ou pas, ça ne change rien à la réalité que Dieu est toujours souverain. Et parce que Dieu est souverain, je peux lui faire confiance en tout temps. Je peux croire en sa parole, en ses promesses, même quand les circonstances sont contraires et semblent dire que Dieu a perdu le contrôle des choses. Je peux espérer contre toute espérance. Je peux croire que les chemins difficiles sur lesquels Dieu me fait marcher n'échappent pas à son contrôle. Et que Dieu saura s'en servir dans sa sagesse et dans sa grâce pour mon bien et pour la réalisation de son plan. Oui, Dieu est souverain, et parce que je sais ces choses, parce que je sais que ma vie est dans les mains de Dieu, du Dieu souverain, je peux être en paix, même dans l'épreuve, même sur le chemin difficile. Même quand je ne comprends pas, même quand il y a la souffrance et même quand il y a la mort, je peux être en paix parce que Dieu tient toutes choses dans sa main. deuxième leçon que je tire de notre passage est étroitement liée à la première, car c'est par sa souveraineté et sa providence que Dieu amène l'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. En quoi notre texte est-il l'accomplissement d'une promesse de Dieu ? Pour répondre à cette question, il faut un peu rembobiner le film et remonter au tout début de la Genèse, chapitre 15, verset 13, à une promesse que Dieu fait à Abraham. Et que lui dit-il ? Il dit à Abraham, « Sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur, ils y seront esclaves, et on les affligera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Bien des années se sont passées depuis cette parole, depuis cette promesse faite à Abraham. Bien des années, mais Dieu n'a pas oublié. Bien des années, mais Dieu travaille à la réalisation de son plan. Il travaille à la réalisation de ses promesses. Et une réalisation qui va passer, comme annoncé, par l'esclavage de ce peuple hébreu, et puis par la naissance de celui dont Dieu va se servir pour le libérer, pour libérer ce peuple et en faire son peuple. Non, Dieu n'oublie pas ses promesses. Même quand j'en ai le sentiment, même quand tout semble dire cela dans ma vie, même quand je passe par l'épreuve, où sont les promesses de Dieu quand je souffre ? Où sont les promesses de Dieu quand je vois quelqu'un souffrir ? Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, quand Dieu semble silencieux. Mais je dois me souvenir, comme le dit le psalmiste, que Dieu ne dort pas. Il ne dort jamais. Non, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple, celui qui me garde et qui garde chacun de ses enfants dans sa main. Il connaît même chacun de mes cheveux, le nombre de mes cheveux, dira Jésus. Quel réconfort de savoir que Dieu veille, que Dieu œuvre, qu'il travaille à la réalisation de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dieu tient toujours ses promesses et le temps de la délivrance est sur le point d'arriver pour les Hébreux. La naissance de Moïse, de ce garçon parmi tant d'autres sans doute, même s'ils ne le savent pas encore, marque d'une certaine manière le commencement de la délivrance pour eux. Et on pourrait ici détourner une parole que Paul va dire dans son épître aux Galates au sujet de la naissance de Jésus. « Quand les temps furent accomplis, dit-il, Dieu envoya son Fils. » Il y a eu un moment dans l'histoire préparé par Dieu pour la venue de Jésus. « Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Et il en est de même. Pour Moïse. Il en est de même pour la délivrance de l'esclavage. Quand les temps furent accomplis, Dieu fit naître Moïse. Dieu sauva Moïse. Dieu le préserva afin d'accomplir sa promesse. Toutes les promesses de Dieu pour nous ne sont pas encore accomplies. Ce passage et bien d'autres encore nous rappellent que Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous pouvons espérer avec confiance. Nous pouvons attendre avec confiance notre propre rédemption. Nous pouvons attendre avec confiance le retour de Jésus. Nous pouvons attendre avec confiance de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous pouvons attendre avec confiance le jour où la mort ne sera plus. Le jour où le péché aura disparu. Le jour où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Le jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tout cela, nous pouvons l'attendre avec confiance, parce que Dieu tient toujours ses promesses. C'est ce que nous constatons dans sa parole. Comme le dit le prophète Ésaïe, l'herbe sèche, se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste pour toujours. Ici-bas, tout passe, nous y compris. Mais la parole de Dieu subsiste pour toujours. Que Dieu, qui tient toutes choses dans sa main et qui accomplit sa parole, nous accorde la grâce de comprendre ces choses pour sa gloire et pour notre bien. Amen. Je vous invite à quelques instants.